Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abbas Ouédraogo.
Au sommaire, représentation diplomatique du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, de nouveaux responsables pour la conduite des affaires. Suite aux propos d'Emmanuel Macron qui fustige certains dirigeants concernant le retrait annoncé des troupes françaises de plusieurs pays d'Afrique, l'observateur politique Ismaël Diallo estime que c'est la France qui doit son salut à l'Afrique. Vous l'entendrez dans ce journal. En Haïti, la violence a fait plus de 5600 morts en 2024. Et puis aux États-Unis d'Amérique, violent incendie aux portes de Los Angeles, nourri par des vents violents. Voilà pour le sommaire, madame, monsieur, bienvenue à ce journal. Parlons diplomatie en ouverture de ce journal. L'ambassade et les consulats généraux du Burkina Faso en Côte d'Ivoire accueillent de nouveaux responsables à leur tête. Sansan Raphaël Kambou est désormais le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire. Hervé Palais, Cyril Tankwano et Seydou Karambiri sont respectivement les nouveaux gérants intérimaires des consulats généraux du Burkina Faso à Abidjan, Boaké et Soubré. Les nouveaux responsables des différentes structures entendent s'inscrire dans la continuité et le renforcement des actions en faveur du Burkina Faso. Ces derniers comptent sur l'appui des membres de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire en vue de réussir leur mission. Et puis suite à des allégations circulant dans certains médias concernant le rappel de l'ambassadeur ainsi que des consuls généraux du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur tient à clarifier certains points pour éviter toute confusion. D'ores et déjà, il convient de souligner que le Burkina Faso n'a pas d'ambassadeur en Côte d'Ivoire et vice-versa. Les représentations diplomatiques des deux pays à Ouagadougou et à Abidjan sont dirigées par des chargés d'affaires. Le rappel de certains membres de la mission diplomatique s'inscrit dans le cadre d'un mouvement administratif normal, conformément aux pratiques diplomatiques habituelles. Et cette décision n'est en aucun cas le signe d'une crise dans les relations entre nos deux pays. Le ministère des Affaires étrangères invite la presse et l'opinion internationale et nationale et internationale a toujours s'informer auprès des sources officielles et fiables, à ne pas céder à des spéculations non vérifiées et surtout à prendre en compte le respect des principes diplomatiques qui guident les relations entre États. Le président français Emmanuel Macron, dans le cadre de la traditionnelle conférence des ambassadeurs organisée le lundi 6 janvier à Paris, est revenu sur la rupture de plusieurs partenariats militaires avec la France. Selon lui, des négociations ont eu lieu concernant le retrait annoncé des troupes françaises de plusieurs pays d'Afrique et il fustige, je cite, « l'ingratitude de certains dirigeants du continent qui ne seraient plus à la tête de pays souverains si l'armée française ne s'y était pas déployée ». Selon lui, l'armée française n'a pas été remerciée, mais elle a tout simplement choisi de se réorganiser. Les pays africains ont oublié de dire merci à la France pour son engagement à la lutte contre le terrorisme. Ces propos du président français sont mal perçus par l'observateur politique Ismaël Diallo, qui estime que c'est la France qui doit son salut à l'Afrique. Il a été joint au téléphone par Denis Zungrada.
Il a cité le nôtre, le Burkina Faso. Mais quelle injure! Et la France, est-ce qu'elle a combattu le terrorisme? Elle a fait semblant de combattre le terrorisme. En réalité, elle a joué un double jeu. Elle n'a pas combattu le terrorisme. Elle nous a enfoncés dans l'attentisme, dans la désillusion. Nous n'avons pas combattu le terrorisme. Et nous n'avons pas été mieux les années après 2023. Alors, la France est partie. C'est très bien. Nous verrons à présent si nous sommes capables nous-mêmes de combattre les terroristes, oui ou non. Et elle pourra se vanter si nos États disparaissent. Mais ces États ne vont pas disparaître. Parce que le terrorisme ne peut pas les faire disparaître. Ça peut paraître être des professeurs de foi, une profession de foi. Mais on verra bien. Quant à lui, le président de la France, il se rappelle que si nous, nous n'avions pas été là en 1944, 43, 44, 45, et avant la Première Guerre mondiale, peut-être que la France aurait été aujourd'hui une succursale soviétique, aurait parlé russe, une succursale allemande, aurait parlé allemand, ou anglaise, aurait parlé anglais. Je ne sais qui se rappelle de cela.
Autre réaction, c'est celle de l'enseignant-chercheur Koudbi Kabore, qui regrette que le président français n'ait pas situé la responsabilité de son pays dans la situation actuelle des pays sahéliens. Lui aussi a été joint au téléphone par Denis Zungrana.
Si je dois dire quelque chose sur le discours du président français, je dirais qu'il faut le prendre dans son contexte. C'est le discours d'un président qui est acculé, d'un président qui est en difficulté et un président qui s'adresse à ses ambassadeurs. Et je trouve qu'en contexte français, c'est un discours qu'il faut prendre comme ça, dans ce sens. Voilà. Et seulement, c'est regrettable qu'il ne reconnaisse pas lui-même sa propre responsabilité dans ce qu'il décrit. Parce que quand même, si ça se limitait à la situation du départ de la présence française en Afrique de l'Ouest précisément, si ça se limitait au pays de l'AES, ça, on pouvait dire que bon, il y a certainement qu'on cherche trop. Mais vous voyez que ça s'étale. Et de ce point de vue, il y a quand même une gouvernance française qui est à déclier, ce qui ne le connaît pas. Et je pense qu'il aurait fallu qu'il reconnaisse humblement sa part de responsabilité. Mais il ne faut pas aussi rejeter la plupart. Tout ce qu'il dit n'est pas faux, n'est pas mauvais. Si on prend par exemple l'intervention française au Mali 2012 qu'en 2013, quand même ça a été applaudi. C'est à quel moment ça n'a plus été applaudi? C'est justement quand il y a eu ce faux départ justement qui a consisté à stopper l'armée malienne de rentrer à Kidal. Donc il y a une politique de deux poids deux mesures. Et c'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à mal tourner. Sinon, si l'objectif effectivement était resté de libérer des territoires occupés, peut-être que l'armée française et la France seraient toujours présentes dans ce pays.
Dans la suite de ce journal, projet de loi adopté la semaine dernière par les députés sur l'amnistie et les conditions d'octroi de la grâce amnistiante aux auteurs du coup d'État de septembre 2015. À Bobo-Dioulasso, la population soutient les autorités dans la prise de cette décision. C'est du moins ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Diagne Sanou.
Bon, moi, c'est Sanou Roméo. Bon, pour moi, cette nouvelle est la bienvenue. Je suppose que ce sont les fils du pays. Les sorties aussi vont contribuer aussi à lutter aussi contre l'insécurité que nous vivons depuis plusieurs années.
Monsieur Jean-Pierre Kam, je crois que c'est nécessaire. Ils ont presque pigé leur peine. Et s'ils ont regretté l'acte qu'ils ont fait, et je crois que nous aussi, on doit accepter le pardon.
Kafando Jekonias, je pense que s'il est possible que les différents détenus, concernant le putsch, ils peuvent servir en tout cas à la nation par leurs compétences, par leur savoir, leur technicité. Il n'y a pas de problème. On peut leur faire cette grâce-là.
Moi, je suis Monsieur Sanou. Si vraiment leur libération, c'est une bonne cause, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Certains ont purgé leur peine. S'ils ont purgé leur peine, pourquoi les garder? C'est tout à fait raisonnable de les libérer. S'ils n'ont pas déjà purgé leur peine, pourquoi les libérer? Ils n'ont qu'à continuer. Maintenant, ceux qui contribuent pour la défense de la patrie en tant que citoyens aussi, je trouve qu'il n'y a pas de problème, on peut les libérer.
Janda Abdou Rachid Abobo Dioulasso. Bon, disons que moi, de mon point de vue, vu que ces hommes ils ont été jugés, je me dis que c'est convenable que ces personnes-là ils purgent en fait leur peine, voilà, comme ce que la loi exige. Mais cependant, si le gouvernement juge que c'est un bon moyen de les gracier afin de pouvoir mener la lutte contre le terrorisme, bon, pourquoi pas ne pas essayer.
Hors de chez nous, plus de 5600 personnes ont été tuées en Haïti l'année dernière, alors qu'une mission soutenue par l'ONU, dirigée par le Kenya, peine à contenir la violence généralisée des gangs, ont déclaré des responsables mardi. Le nombre de décès a augmenté de plus de 20% par rapport à l'année 2023, selon le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. En outre, plus de 2200 personnes ont été blessées et près de 1500 kidnappés, indique le rapport. Les attaques coordonnées des gangs contre les prisons, des postes de police et l'aéroport international principal se sont intensifiées en Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. On estime que les gangs contrôlent environ 85% de la capitale. Un violent feu de forêt ravage un quartier huppé qui surplombe Los Angeles sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique, forçant depuis mardi des milliers de personnes à fuir alors que des vents de la puissance d'un ouragan posent un danger mortel selon les autorités. Le feu s'est déclaré mardi en fin de matinée dans le quartier de Pacific Palisades, peuplé de villas à plusieurs millions de dollars où habitent des célébrités hollywoodiennes dans les montagnes au nord-ouest de la ville. Les habitants paniqués ont dû abandonner leur véhicule sur l'une des seules routes entrant et sortant de la zone, fuyant à pied le feu qui a déjà ravagé près de 1200 hectares. Aucun mort ou blessé n'a été signalé, a indiqué la chef des pompiers de Los Angeles. Environ 30 000 personnes sont sous le coup d'un ordre d'évacuation, selon les autorités.
Omega Sport.
L'actualité sportive nous est commentée par Bernabé Cabré. Bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Radio Omega. Le Nigeria a un nouvel entraîneur pour son équipe nationale. La fédération a officialisé hier lundi l'arrivée du Malien Eric Schell sur le banc de Super Aigles, sélectionneur du Mali qui l'avait conduit jusqu'en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Eric Schell avait été limogé en juin après deux contre-performances dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Par la suite, le Malien avait rebondi au MC Oran en Algérie en octobre avec des résultats mitigés à la clé, 4 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Ces résultats ont en tout cas suffi à convaincre la fédération nigériane d'en faire le nouvel homme fort des Super Aigles. Patrice Motsepe, le président de la CAF, a annoncé une prime record pour le vainqueur du prochain CHAN prévu du 1er au 28 février. Le futur vainqueur empochera plus de 2 milliards de francs CFA. C'est une augmentation de 75% par rapport au dernier CHAN. Cet effort financier s'inscrit dans le développement du football africain, a justifié le Sud-Africain, seul candidat à sa succession, à la tête de la CAF en mars 2025. Arsenal se met en difficulté en Coupe de la Ligue anglaise. Les Gunners ont été battus hier à domicile par Newcastle 2-0 en match aller. Les Magpies prennent donc une belle option pour une qualification en finale avant la manche retour à St James Park le 5 février prochain. La deuxième demi-finale allait mettre au prix ce soir à 20h, Tottenham à Liverpool. Et la Super Coupe d'Espagne débute aujourd'hui en Arabie Saoudite. Le FC Barcelone dispute son deuxième match de l'année contre l'Atlético Bilbao à 19h. Vice-champion des Espagne en titre, le Barça affronte le dernier vainqueur de la Coupe du Roi qui est Bilbao pour une place en finale. Demain à la même heure, Mallorca sera opposé au Real Madrid. Mercato pour terminer, ouvert à un départ de Manchester United, ce mercato, Marcus Rashford ne manque pas de courtisans. Le Borussia Dortmund est entré dans la danse et a pris des renseignements sur la faisabilité d'un mouvement durant ce mercato. Le Milan AC souhaite également obtenir un prêt de l'international anglais jusqu'à la fin de la saison. Rashford, 27 ans, a joué 15 matchs et marqué 4 buts en Première Ligue cette saison.
La revue de presse.
L'investiture du président John Dramani Mahama est largement commentée par les parutions du jour. La revue de presse de ce mercredi 8 janvier porte la signature de Gisèle Tirogo.
Investiture John Dramani Mahama, le revenant de Jubilee House au pied du mur ghanéen, titre l'Observateur Palga. Depuis hier, John Dramani Mahama, candidat du National Democratic Congress, a été officiellement investi en tant que nouveau président du Ghana. Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'une vingtaine de chefs d'État, dont le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. À cet effet, l'Express du Faso s'interroge. John Dramani Mahama, le réunificateur, lors de son investiture, Mahama a réussi à rassembler l'AES et la CDAO à Accra. Ibrahim Traoré, représentant de l'AES, était aux côtés de Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, invité d'honneur, ainsi que de Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Faure Gnassingbé du Togo, facilitateur chargé de ramener les militaires récalcitrants dans la maison CDAO. Commente mon confrère Bobolet dans sa rubrique « Autant le dire ». Pour ce canard, le capitaine Ibrahim Traoré, en se rendant au Ghana, traduit un acte concret des liens traditionnels qui lient les peuples ghanéens et burkinabés. Pour le quotidien, ce premier déplacement du chef de l'État burkinabé dans un pays de la CEDEAO depuis son accession au pouvoir en septembre 2022 est riche en symboles et suscite l'espoir d'une détente diplomatique entre le Burkina Faso et le Ghana après des mois de tension. Pour cela, le journal affiche à sa une « Coopération Ghana-Burkina, le vent de la décrispation ». Le journal de Zahab Dara espère que cette dynamique amorcée lors de cette investiture historique sera le prélude à une collaboration fructueuse et durable entre ces deux nations, appelées à avancer ensemble pour relever les défis de l'avenir. Le journal Aujourd'hui au Faso nous rappelle que la démocratie ghanéenne doit beaucoup à Yeri John Wailings. Le retour de Mahama au pouvoir après avoir cédé la présidence à Akufu il y a 8 ans est perçu comme un retour aux valeurs démocratiques. Les Ghanéens doivent leur démocratie à Yeri John Wailings, putschiste indéclotable mais démocrate intraitable, a écrit le journal dans ses colonnes tout en soulignant l'héritage laissé par cette figure emblématique. L'homme de Noé Kalaboulé doit sourire là où il est, pense mon confrère. Le pays, lui, s'intéresse à la tournée africaine du chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, qui a débuté le 5 janvier dernier. C'est la première fois en 35 ans que l'Empire du Milieu consacre sa première visite diplomatique de l'année au continent africain. Une démarche qui, selon mon confrère, se veut une marque d'attention du ministre chinois des Affaires étrangères et en dit long sur l'intérêt porté sur le continent noir par son pays qu'il n'hésite pas à présenter comme le partenaire le plus fiable des pays africains dans la poursuite du développement. Cependant, le journal souligne qu'il appartient à l'Afrique de tirer le meilleur profit de tous ses partenariats divers au profit de sa population, car les grandes puissances agissent souvent pour des intérêts bien ciblés, conclut le journal.
C'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tiendrebego. Très bonne suite des programmes sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.